bonjour à tous ceux, que j'ai pas vu ce matin, peut-être que j'ai pas pu saluer à l'entrée, ou peut-être vous venez pour la première fois cet après-midi. Bien, soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais juste voir si vous étiez réveillés en fait. Parce que je sais que parfois on mange, après on a envie de dormir, c'est l'heure de la sieste, 4 heures, c'est le goûter. Parfois ça peut être lourd sur les estomacs. Mais je crois que le Seigneur a encore un repas pour nous cet après-midi. Est-ce que vous avez faim de Dieu ? Un enfant de Dieu, il a toujours faim de Dieu. Parce que le Seigneur veut toujours nous nourrir. Je vais prier et puis je vous donnerai le passage à lire. Seigneur, merci pour cet après-midi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas de petite réunion, il y a toujours des endroits de rencontre avec toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas regarder au nombre que nous sommes cet après-midi, mais nous regardons qu'à toi seul, Seigneur. Ta parole nous dit qu'en deux ou trois s'assemblent en ton nom. Seigneur, toi, tu es au milieu d'eux, et Jésus, toi, tu es là cet après-midi. Tu es là par ton esprit, et tu es déjà en train de diriger toutes choses. Tu es en train de disposer nos cœurs, Seigneur. Tu es en train déjà de travailler, de parler, Seigneur. Tu es en train, Seigneur, de changer, Seigneur, ce que même nous ne voyons pas aujourd'hui avec nos yeux, mais tu es en train de tout préparer d'avance, parce que, Seigneur, tu es sage. Ta parole nous dit que tu es l'éternel Dieu et que tu es le seul sage, Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que nos vies, Seigneur, un jour t'ont rencontré, un jour nous t'avons vu, Seigneur, eh bien, agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est par l'effet de ta grâce. Tu nous as pardonné, tu nous as sauvés, et nous sommes heureux d'être là cet après-midi. Père, je te prie que ton Saint-Esprit souffle sur nos cœurs cet après-midi. Je te prie, mon Dieu, pour que ta parole, Seigneur, pénètre nos cœurs, qu'elle vienne en profondeur et qu'il y ait, Seigneur, un travail du Saint-Esprit. Je te prie, mon Dieu, de disposer toutes choses. Mets ta parole dans ma bouche, Seigneur, et conduis, et Seigneur, toute cette réunion. Nous te glorifions. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je vous invite à lire bien le psaume 91. On va lire les 8 premiers versets. Le thème de cet après-midi, vous l'avez sur votre programme. Jésus seul peut te délivrer. Amen. Psaume 91, versets 1 à 8, nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. » Alors, bien ce psaume-là, on ne sait pas qui l'a écrit au premier abord. Il n'y a pas le nom, comme d'habitude, dans les psaumes où on voit psaume de David, psaume de Moïse, psaume d'un tel. Mais là, on voit un homme qui est en train d'exprimer quelque chose qu'il a vécu avec Dieu et quelque chose qu'il a vécu dans sa vie de tous les jours. Moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne nous cache rien. Elle ne nous cache pas les états d'âme, elle ne nous cache pas les parcours que nous pouvons avoir dans nos vies de tous les jours. Dieu n'est pas celui qui cache les choses en disant « vous êtes bien dans un pays tout rose, tout va aller très bien ». Non, là nous voyons quelqu'un qui exprime, oui, qu'il a trouvé un refuge en l'Éternel, mais qui exprime quelque chose de particulier. Il dit qu'il est celui qui l'a délivré un jour du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire que pour être délivré, il a fallu qu'il soit piégé. Et qu'il a fallu qu'il rencontre des temps difficiles dans sa vie où il a pu crier à l'Éternel et voir que oui, l'Éternel est celui qui délivre. Et on peut pas faire l'expérience de Dieu sans avoir eu ce genre par moment, ce genre de déboire, de parcours difficile. Et cet après-midi, peut-être que tu es là, peut-être que tu es chrétien ou pas, mais que tu as un parcours aujourd'hui peut-être difficile et que tu as un moment là où tu te sens comme piégé, emprisonné et il y a une forteresse dans ta vie où tu te dis mais j'aimerais tellement être délivré de ce problème-là qui pèse dans ma vie, c'est un lourd fardeau. Et là, on voit que le psalmiste dit « Il est celui qui m'a délivré du filet de l'oiseleur ». Et j'aimerais cet après-midi exposer ce qu'est un oiseleur dans ce temps-là, mais aussi aujourd'hui, comment ils font les choses. Et pourquoi il y a cette image-là dans la parole de Dieu. Nous retrouvons le filet de l'oiseleur à plusieurs endroits, mais particulièrement au psaume 91 et psaume 124. Et on voit, eh bien, que cette image-là, elle est forte pour exprimer, eh bien, la façon d'être dans une fragilité, d'être opprimé, d'être lié, d'être piégé un jour dans sa vie et qu'on a besoin du secours de quelqu'un qui vient nous délivrer. Qu'est-ce qu'un oiseleur ? Un oiseleur, c'est un spécialiste. C'est un homme, eh bien, qui prend le temps d'étudier la faune, les oiseaux en particulier, parce que son but, c'est de les attraper. Il est quelqu'un qui va étudier chaque espèce. Il va les étudier au niveau de leur chant, au niveau de leurs habitudes, au niveau, eh bien, de ce qu'ils mangent jour après jour. C'est quelqu'un qui étudie très précisément, eh bien, chaque oiseau. Parce que son but, c'est de les attraper, de les mettre en cage et de les vendre après sur le marché. Et du temps des rois en France, on le pratiquait beaucoup. Il y avait des oiseleurs en France, vraiment par centaines et milliers, qui parcouraient les campagnes, qui attrapaient les oiseaux et qui allaient vendre ça à la cour du roi. Parce que le roi aimait beaucoup avoir des grandes volières, etc. Donc il se faisait beaucoup d'argent avec cela. Donc ces hommes, eh bien, étaient des gens qui étaient vraiment, qui connaissaient le terrain des oiseaux. Qu'est-ce que va faire l'oiseleur ? Il a plusieurs techniques pour attraper les oiseaux, mais là, c'est marqué le filet de l'oiseleur. Donc, c'est une technique particulière. L'oiseleur, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tendait quatre pieux, enfin, il mettait quatre pieux sur un terrain et il tendait un filet par-dessus. Et au niveau d'un pieu, il attachait une ficelle. Et lui, il allait, eh bien, se mettre dans un buisson. Mais sous le filet, qu'est-ce qu'il mettait ? Par terre, il mettait, eh bien, l'appât qui correspondait à l'oiseau qu'il voulait attraper, donc la nourriture spécifique pour l'oiseau. Mais il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi des oiseaux qui étaient de la même nature que celui qu'il voulait attraper et qui liaient sous le filet afin qu'ils chantent, en fait. Et c'est ce qui attirait, en fait, eh bien, les oiseaux de cette espèce-là à venir se poser à côté d'eux et à venir, eh bien, picorer l'appât. Et à partir de là, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se mettait dans les buissons et il attendait patiemment. L'oiseleur, c'est un homme patient. Il pouvait rester des heures tapis dans l'ombre à attendre, eh bien, que l'oiseau cherché vienne se mettre sous le filet. Il scrutait l'horizon, il attendait, et il était là, prêt à intervenir. Quand les oiseaux, eh bien, de l'espèce voulue venaient se poser sous le filet, alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il tirait sur la corde, et puis le filet s'écrasait au sol, et les oiseaux étaient piégés. C'était une technique, eh bien, utilisée. Je ne sais pas si on l'utilise encore aujourd'hui, ça j'en sais rien. Mais en tous les cas, on l'utilisait souvent. Et ça fonctionnait très bien. Et pourquoi cette image prise par ce psalmiste ? Pourquoi est-ce qu'il a pris cette image du filet de l'oiseleur ? Parce qu'en fait, l'oiseleur, c'est l'image de l'ennemi, de notre ennemi, du diable, en fait, eh bien, qui veut sans arrêt détruire et piéger la vie de l'homme en général. Le diable, il est vicieux, pernicieux. C'est celui, nous dit la parole de Dieu, qu'il est le père du mensonge. Celui qui est prêt, eh bien, à venir détruire les vies et à nous appâter, à nous attirer par des tentations diverses et variées. Son but, c'est de nous piéger. De piéger le cœur de l'homme. À Pierre 5,8 nous dit : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, c'est un spécialiste pour étudier nos cœurs et nos vies. Il scrute chacune des faiblesses du cœur de l'homme. Chacune de nos faiblesses, il va les scruter. Et depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, il est spécialisé dedans. C'est-à-dire qu'il connaît cet après-midi là où est ton point faible et là où il peut te piéger. Comment s'y prend-il ? Alors, il ne fait pas des appâts comme pour les oiseaux, mais il nous appâte d'une certaine manière. Comment ? Bien, avec toutes ces choses du monde que l'on voit tout autour de nous. Le monde, eh bien, qui est là, qui essaye de nous faire tomber dans ces filets-là, dans ces pièges-là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il propose, eh bien, de remplir nos cœurs, nos vies, par des choses complètement éphémères, mais aussi destructrices, et qui vont, si on n'y prend point garde, eh bien, venir complètement nous piéger et nous enfermer, eh bien, dans une espèce de cage, qu'elle soit spirituelle ou morale, mais elle va nous entraîner, eh bien, à être complètement liés. Les choses du monde que ce monde nous propose, en fait, les tentations, elles sont diverses et variées. On le voit aujourd'hui, eh bien, on peut être tenté, quand on voit, moi je vois mes enfants, on peut leur proposer, par exemple, à la sortie de l'école, très facilement, eh bien, de la drogue, des cigarettes, de l'alcool. Et ça, on le voit à la télévision. Il y a des générations entières qui aujourd'hui prennent plaisir à prendre de l'alcool. Je regardais l'autre jour à la télévision, eh bien, comme quoi une jeune fille de 12 ans a bu une bouteille de rhum en entier parce qu'elle faisait un concours avec ses enfants, avec ses copains et copines, pardon. Et là, tout d'un coup, eh bien, elle est tombée dans le coma, elle est décédée. Ça, c'est notre génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien sûrement, que ses copains, ses copines ont dû lui dire « Ah, t'es pas capable d'y arriver. C'est comme ça qu'on y arrive. T'es pas capable. Vas-y, montre-nous que tu es comme nous. » 12 ans, imaginez l'âge qu'elle avait. Les parents, je ne sais pas où ils étaient, mais en tous les cas, cette jeune fille a bu une bouteille de rhum en entier. Je ne sais pas si nous, on le ferait en tant qu'adulte, et on tiendrait debout, je ne pense pas, on serait tous en train de tomber. Mais elle, à son âge, elle en est décédée. Le diable est subtil. Les tentations de ce monde-là, diverses et variées, ce sont des pensées, ce sont des images, ce sont des choses que le diable envoie se connecter sur notre esprit pour essayer de nous attirer dans ces pièges-là. Quand on allume le poste de télévision, on n'a qu'à regarder simplement les publicités qui passent à la télé. Et vous allez comprendre dans quel monde vous vivez. Un monde où la pornographie est roi. Où pour un pot de yaourt, eh bien on veut mettre une femme nue à côté. Nos enfants incurgitent ça, mais nous aussi. Et quelqu'un qui n'a même pas de pensée, par exemple, qui est marié, qui n'a pas de pensée d'adultère, peut très bien avoir tout d'un coup un moment de faiblesse, commencer à regarder cette femme-là et commencer à avoir des pensées lugubres et être tenté dans sa vie. Et ça ouvre une brèche. Et s'il ne prête point garde, il peut très facilement tomber dans la perversité et compagnie. Ça va très vite dans ce monde-là. Ne nous croyons pas plus forts que l'ennemi de notre âme, parce que c'est un spécialiste. Il y a combien de choses que le monde propose ? Il y a des religions, des philosophies, parce que le diable veut nous perdre dans divers chemins qui nous éloignent du cœur de Dieu. C'est le but. Non seulement cela, mais il y a l'occultisme, le spiritisme, tout ce qui est ésotérique. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, que par exemple vous êtes un grand brûlé, en Vendée c'est comme ça, vous allez à l'hôpital, ils ne vous posent même pas la question de ce qu'ils vont vous proposer pour vous soulager. Ils appellent un coupeur de feu, sûrement que vous savez ce que c'est. C'est un guérisseur en fait, qui vient et qui ne pose pas ses mains sur vous, et qui commence à faire eh bien, des espèces d'incantations, etc., et qui coupe eh bien, le feu de votre brûlure. Et nous, à l'hôpital, eh bien, en Vendée, c'est automatique. Ce n'est pas un médecin qui vient vous voir. Ils appellent le coupeur de feu. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est directement eh bien, lié à l'occultisme, spiritisme. Et ce sont des mauvais esprits derrière qui travaillent. Notre monde est comme cela. Et le monde est là pour détruire eh bien, le cœur de l'homme, le piéger dans des chemins qui vont l'éloigner complètement de Dieu. Et c'est ça le piège de l'ennemi. C'est de faire croire que toutes ces choses-là sont bonnes. Mais à l'arrivée, c'est une destruction de la vie de l'homme. C'est pour ça que je disais en entrée, eh bien, comme quoi le diable, c'est le père du mensonge. Et il va mentir à notre cœur, à notre vie, à notre génération, afin de la tenir éloignée eh bien, du plan de Dieu, de connaître eh bien, Jésus-Christ, de rencontrer le Sauveur qui peut aujourd'hui changer ta vie. C'est le but du diable. Et nous voyons eh bien, comment le diable a opéré depuis l'origine des temps. La Bible ne nous le cache pas. Dans la Genèse, au chapitre 3, nous voyons que Adam et Ève, les premiers hommes et femmes qui ont été créés par Dieu, qui avaient été créés pour être heureux sur terre, Dieu leur a donné un commandement, comme quoi il ne fallait pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et qui les a placés dans un super jardin. Et c'était vraiment eh bien, le bonheur sur terre. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Tout allait bien. Jusqu'au jour où eh bien, la Bible nous rapporte qu'il y a un serpent qui est venu parler à Ève. Déjà un serpent qui parle. Elle aurait dû déjà avoir les yeux qui s'ouvrent et dire « c'est pas normal ». Mais le diable, déguisé en serpent, est venu subtilement. Et comment a-t-il fait pour faire tomber Ève ? Il a simplement posé des questions. Il ne l'a pas poussé. Il ne l'a pas agité. Il ne l'a pas tapé dessus. Il a utilisé la douceur du langage. Et qui lui a dit quoi ? Est-ce que Dieu a réellement dit ? qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé le doute dans le cœur d'Adam et d'Ève, et d'Ève en particulier. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et Ève a commencé à discuter avec le serpent. Et dans ce dialogue-là, eh bien, qu'est-ce que le serpent va dire? Il va dire, mais non, Dieu est un menteur en clair. Il ne va pas utiliser ces mots-là. Mais il va lui faire comprendre que Dieu ment. Et que s'il leur a interdit de toucher à cet arbre-là, en fait, c'est parce qu'il sait très bien que s'ils en mangent, ils vont devenir comme lui. Et que Dieu ne veut pas que l'homme soit à son niveau. Et la Bible nous rapporte quoi? Que quand Ève a commencé à réfléchir à ces choses-là, la tentation était en train de faire son travail dans le cœur d'Ève. Et comme elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, elle n'a pas vu les conséquences qui étaient derrière. Elle s'est fait avoir, elle s'est fait piéger par ce genre de raisonnement. Et la Bible nous rapporte qu'elle a commencé à regarder le fruit d'un autre regard. Et qu'elle a commencé à le convoiter. Et elle a pris ce fruit-là et elle en a mangé. À partir de là, la désobéissance est entrée dans le cœur de l'homme. Le péché est entré dans la vie de l'homme. Et le reste, ça a été la séparation d'avec Dieu. Et c'est ça le plus grand malheur de l'homme, c'est d'être séparé de Dieu. C'est ça le piège de l'ennemi. Alors peut-être cet après-midi, tu vas me dire, mais moi, je ne touche pas à la drogue, je ne touche pas à l'alcool, j'ai une bonne moralité, je me tiens droit. Mais il y a un piège qui est refermé sur le cœur de l'homme depuis notre naissance. Et depuis Adam et Ève, c'est ce que je viens d'expliquer. Ce piège-là, il est refermé sur chacun d'entre nous. Et la Bible nous le dit. Il dit comme quoi nous étions eh bien, tous errants. C'est Ésaïe 53 qui dit ça. Tous errants. Chacun cherchait sa propre voie, sa propre direction. Tous errants. Pourquoi? Parce que c'est Romain qui dit comme quoi eh bien, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence du cœur de l'homme aujourd'hui, pourquoi le cœur de l'homme est si triste et vide? Pourquoi il est comme piégé? Pourquoi est-ce qu'il est malheureux l'homme? Parce qu'il a été piégé par l'ennemi de notre âme, le diable, par le péché qui est entré dans le cœur de l'homme à travers Adam et Ève jusqu'à nous, de génération en génération. Et chaque homme, chaque femme qui naît sur cette planète, automatiquement, il y a le piège du péché qui est sur sa vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a paru. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Le psalmiste dit que lui, eh bien, il a été délivré. Ça veut dire qu'il y a une porte de sortie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de délivrer. Un oiseau ne peut pas se délivrer du piège. L'homme ne peut pas se changer lui-même. La Bible nous dit, est-ce qu'un léopard peut-il effacer ses taches? Tu ne peux pas y arriver. L'homme va chercher divers moyens pour sortir de ce piège-là, à dire, mais comment je peux remplir le vide de mon cœur? Comment je peux être pardonné de ce péché qui est là et que je sens qu'il y a une séparation entre moi et le ciel? On sent que quelque chose eh bien, ne va pas. La Bible nous dit que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Cette œuvre de piège, cet oiseleur spécialisé, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il n'a pas vu venir, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu, le Fils du Dieu vivant, qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible nous dit que c'est le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. C'est le sang de Jésus qui peut te laver et complètement déchirer ce filet de l'oiseleur, ce filet qui est sur ton cœur. Peut-être eh bien, cet après-midi, eh bien, tu peux être un chrétien et tu es tombé dans un autre piège. Parce qu'on peut tomber, on peut chuter. La Bible nous le dit. Elle ne nous cache rien, la parole de Dieu. Mais Dieu veut aussi te délivrer cet après-midi. Je ne sais pas dans quoi tu peux être tombé, mais Dieu est capable de le faire. Et il veut le faire. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pourquoi Jésus est venu? Quelles étaient les raisons qui ont poussé Jésus à donner sa vie à la croix? Pourquoi est-ce qu'elle a été jusque-là pour nous délivrer de ce filet-là? Parce que Jean 3,16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'est-ce que l'homme a à faire dans cette histoire-là? Comment faire pour sortir de là? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose que tu as à faire, c'est premièrement de croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que Jésus-Christ, il est vivant. Qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et que cet après-midi, c'est l'endroit de la rencontre avec Jésus. Même si tu ne le vois pas physiquement, l'Esprit de Dieu est là. Et il est capable de te délivrer instantanément de n'importe quel problème. Premièrement, la foi. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la Bible nous avertit aussi que celui qui doute, qu'il espère même pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est-à-dire que cet après-midi, tu dois avoir une pleine confiance en Jésus-Christ. La deuxième chose, un oiseau qui est pris sous un filet, il n'a qu'une seule chose qu'il peut encore faire. C'est continuer à chanter, à siffloter, en attendant que l'oiseleur vienne le prendre. Et Dieu connaît le cri de ton cœur. La Bible nous dit que quand un malheureux cri, l'Éternel entend. Et le délivre de toutes ses détresses. C'est-à-dire que tu dois te reconnaître, premièrement, comme malheureux. Malheureux, ça veut dire, eh bien, oui, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. Je suis tombé dans un truc, j'ai même pas vu venir. Oui, Seigneur, depuis ma naissance, je vis sans toi. Je suis loin de toi, je fais ma vie tout seul. Je crois que je vais pouvoir y arriver, mais en fait, je suis piégé. Et c'est une ruine, ma vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Que tu puisses te reconnaître comme perdu. Quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, qui a besoin du secours de Dieu. Et que tu peux courir à gauche et à droite, faire toutes les religions que tu veux. Jamais ni personne ne pourra te délivrer comme Jésus-Christ peut le faire aujourd'hui. Et il faut que tu te reconnaisses comme pécheur. Parce que celui qui se reconnaît comme pécheur est perdu. C'est celui qui va se repentir. Se repentir, c'est demander pardon et abandonner sa vie entre les mains de Dieu afin que Dieu te change totalement. Parce que le Saint-Esprit est capable de changer ta vie, te donner un nouveau départ aujourd'hui. De tout recommencer à zéro. Seul Dieu est capable de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire vraie, bien sûr, d'un homme qui un jour venait dans une réunion d'évangélisation comme celle-là, et puis il s'est assis au fond de l'église, le prédicateur en train de parler. Le prédicateur commençait à dire, oui, le sang de Jésus, seul le sang de Jésus peut effacer tous les péchés. Et cet homme était assis au fond, derrière un poteau, et puis il avait un chapeau, ça se passe il y a longtemps, hein. Et il avait un chapeau sur la tête, il était caché. Et pendant toute la réunion, il était là, il écoutait. Et puis à la fin de la réunion, quand les gens sont sortis, il a été voir le pasteur. Et puis il a dit au pasteur, écoutez pasteur, si vous voulez bien, j'aimerais vous emmener chez moi. Alors cet homme-là a dit, le pasteur a dit, bah, il n'y a pas de problème, si vous voulez m'emmener. Il lui a dit, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez dit que le sang de Jésus peut effacer tous les péchés, alors j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors le pasteur a commencé à prendre ses affaires, puis les anciens étaient là dans l'église, puis ils ont été trouver le pasteur, on lui a dit, ah, mais tu sais qui c'est lui? Alors, il dit, non, j'en sais rien. Il dit, lui là, attention parce qu'il est très dangereux. C'est un homme généralement qui est violent et qui est armé. Et ça rigole pas avec lui. Il a dit, c'est pas grave, moi j'y vais au nom de Jésus, Dieu est avec moi. Alors il est sorti et puis... Et puis cet homme-là l'a emmené dans son village. Ils ont traversé les routes, etc. Ils sont passés sur un pont. Et puis ils sont arrivés, il avait une grande bâtisse. Alors il est arrivé, il est entré dans une première pièce. Il lui a dit, pasteur, asseyez-vous, il y a une petite table. Puis au moment que le pasteur s'est assis, lui, il a commencé à défaire une arme qui était là, puis il l'a posée sur la table. Le pasteur était en face, comme ça. Et puis l'homme lui a dit, vous voyez, pasteur, avec cette arme-là, j'ai tué des gens. Est-ce que le sang de Jésus peut effacer tous les péchés? Alors, le pasteur lui a dit oui, seul le sang de Jésus peut effacer tous les péchés. Alors cet homme-là a dit, ok pasteur, venez avec moi. Il y avait un mur caché, et puis ils sont entrés dans une autre pièce. Et là, tout d'un coup, c'était des tables de jeu. Et l'homme lui a dit, voyez, chaque soir de la semaine, il y a des hommes, des femmes qui viennent jouer ici, et certains sont ruinés quand ils sortent de là. Vous avez vu le pont où on est passé tout à l'heure? Il dit oui. Sachez que beaucoup sont sortis de cette pièce-là et ont été se pendre parce qu'ils n'avaient plus rien. C'est un endroit où il y a eu des pendus. Est-ce que le sang de Jésus peut effacer tous les péchés? Il a dit oui, le sang de Jésus efface tous les péchés. Cet homme a dit très bien. Et puis ils sont sortis de là, ils sont montés au premier étage. Et puis il a dit, vous voyez en face, il y a une petite maison en face de chez moi. Il dit oui, et c'était le soir, donc la lumière était allumée. Il dit, vous voyez, dans cette pièce-là, il y a ma femme et il y a ma fille qui habitent là. Moi, j'habite dans cette maison, ils habitent en face. Il dit, parce qu'en fait, je suis un homme violent, un homme alcoolique, et un homme qui, un jour, eh bien, est en train de me disputer, de taper sur ma femme. Devant la cheminée, ma petite fille eh bien, est passée, s'est mise entre nous, et sans faire exprès, en fait, j'ai poussé ma fille dans le feu. Elle a été brûlée. Ma femme, depuis ce jour-là, eh bien, vit dans la maison en face. Parce que, à leurs yeux, je suis un homme dangereux. Est-ce que le sang de Jésus peut effacer tous les péchés? Alors le pasteur a dit oui, le sang de Jésus purifie de tous les péchés. Alors il dit, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux maintenant qu'il purifie toute ma vie, qu'il change ma vie, qu'il me transforme. Mais je veux vraiment être changé radicalement. Parce que cette vie-là ne m'intéresse plus. Alors il a donné sa vie à ce moment-là. Le pasteur a prié pour lui. Tout d'un coup, il a entendu la porte du bas. La petite fille, eh bien, qui a monté à l'escalier et qui a dit, qui a tapé à la porte, qui a ouvert la porte, elle était dans la peur. Puis elle regarde son père, elle dit, oui, c'est maman qui te dit que le repas est préparé. Et puis, il lui a dit, viens voir là. La petite a avancé, elle avait peur de son père. Puis il a commencé à la serrer dans ses bras. La petite ne comprenait plus rien. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il a commencé à lui demander pardon à sa petite fille. Et puis la petite est redescendue l'escalier, elle a couru, elle ne comprenait plus rien. Elle a couru, elle est voir sa maman, elle lui a dit, maman, je ne comprends pas ce qui se passe avec papa. Papa m'a dit ça. Papa a fait ça. Il n'a jamais fait ça avec moi. Et à partir de là, le Seigneur a restauré ce couple et cette famille. Ils se sont pardonnés mutuellement et le couple a vécu heureux en Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus purifie de tous les péchés. Seul Jésus-Christ peut changer les vies. Seul Jésus-Christ peut te délivrer de n'importe quel piège que l'ennemi a voulu te faire tomber. Je ne sais pas où tu en es cet après-midi, je ne sais pas où en est ta vie. Je ne sais pas dans quel piège tu peux être tombé. Que ce soit un piège psychologique. Il y a des maladies comme ça qui peuvent venir. Parce qu'on n'a pas prêté attention ou parce que simplement l'ennemi a jeté son dévolu sur notre vie. Il y a des choses comme ça qui viennent. Il y a des situations dans lesquelles on s'est mis. Oui, on est peut-être responsable. Mais Dieu est capable de changer ta vie, de te délivrer cet après-midi. Parce que Jésus a payé le prix à la croix pour cela. Alors j'aimerais juste m'arrêter là. La Bible nous dit que Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je vais simplement prier, faire un appel. Je vous invite à baisser vos fronts, on va prier ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur, toi tu connais les cœurs et les vies, Seigneur. Tu n'es pas celui, Seigneur mon Dieu, qui est loin de nous, mais tu es proche de nous. Tu connais nos cœurs, tu connais, Seigneur mon Dieu, tout ce qui peut parfois, Seigneur, venir détruire même jusqu'à notre espérance, Seigneur. Tu connais ceux et celles cet après-midi qui sont entrés dans ce lieu, Seigneur, dans l'état où ils sont. Tu connais ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont été piégés, Seigneur, par l'ennemi. Que ce soit, Seigneur, depuis leur naissance, par le péché qui est là, mais aussi parfois par les chutes et les rechutes, Seigneur. Des choses, Seigneur mon Dieu, qui sont venues complètement, Seigneur, les enlacer, les lier, Seigneur, jusqu'à leur faire perdre, Seigneur, l'espoir. Père, toi, tu connais tous ces moments où peut y avoir la tristesse, où peut y avoir l'abattement, où peut y avoir, Seigneur mon Dieu, le découragement, où la déprime et la dépression prennent la place, Seigneur, où on passe, Seigneur, eh bien, de la lumière aux ténèbres, alors que tu nous as appelés à vivre dans la lumière, Seigneur. Seigneur, tu connais les vies, Seigneur, qui sont devant toi cet après-midi. Père, je veux remettre chaque cœur devant toi, du plus petit au plus grand, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, Seigneur. Seigneur, je crois que tu bénis chaque génération. Seigneur, tu n'oublies personne, Seigneur Jésus. Parce qu'à la croix, Seigneur, ta parole nous dit que tu as gravé nos noms dans tes mains, Seigneur. Et que cet après-midi, tu nous appelles à te rencontrer. Seigneur, tu n'as pas changé, Jésus. Tu es capable encore aujourd'hui de délivrer. Tu es capable de restaurer. Tu es capable, Seigneur, de relever, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont complètement abattus et par terre. Seigneur, tu es capable de déchirer tous les filets, Seigneur, qui peuvent nous piéger, Seigneur. Et nous redonner une vraie liberté. Seigneur, tu es le Dieu qui libère. Tu es capable, Seigneur. Seigneur, je te prie, mon Dieu. Je te prie d'œuvrer, Seigneur, dans chaque situation. Viens éclairer, Seigneur, par ta parole, par ton esprit. Seigneur, viens libérer, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.